Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Eau de Radio. Pour ceux qui nous rejoignent, le mois de septembre ne se terminera pas sans que nous ne diffusions une émission Onde du Vivre Ensemble. C'est le nom du projet piloté par Eau de Radio en partenariat avec l'association L'Autre Rive et cofinancé par le Fonds européen d'intégration. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce projet s'articule sur deux axes, formation et information. Les formations sont destinées aux jeunes étrangers extra-européens qui vivent en France. Et nous abordons ensemble, avec les jeunes, les us et coutumes de la société en France. Le but, c'est de faciliter leur intégration, bien sûr. Et ces jeunes réalisent chaque mois une émission sur Eau de Radio, que vous retrouverez chaque premier vendredi du mois entre 16h et 17h et un article presse publié dans l'Écho des Collines. Mais le projet Onde du Vivre Ensemble, c'est également des émissions réalisées par Eau de Radio en lien avec la thématique centrale de l'intégration des jeunes étrangers en France. Alors, je rappelle que ce projet a débuté en juillet 2012 et qu'il se prolongera jusqu'en juin 2013. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la scolarité des mineurs étrangers en France et plus localement ici en Gironde. Alors, on a avec nous plusieurs invités en plateau. Isabelle Soriano, professeure à l'école La Benauge et qui fait partie donc de la brigade départementale français langue seconde. Bonjour. On a également Yolande Saucès, professeure à l'école Albert Camus à Floirac, chargée de la CLIN. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Sylvie Carbia, vous êtes chargée de la coordination du dispositif insertion au centre social de la Colline. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vont nous retrouver en plateau David Dumeau, médiateur auprès des SQUAT pour la direction développement social et urbain de la mairie de Bordeaux. Et Agnès Dubourg, également professeure au lycée professionnel Jacques Brel de Lormont. David Dumeau vient de nous retrouver, justement. Alors, on va aborder ensemble plusieurs questions spécifiques. On va essayer de peut-être d'abord de voir un peu tous les dispositifs éducatifs pour les mineurs étrangers, comment ils sont apparus, qu'en est-il aujourd'hui et quels sont tous les acteurs qui sont en lien avec la scolarisation des mineurs étrangers hors l'éducation nationale. Et puis, on verra ensuite vraiment les enjeux sociaux et politiques aujourd'hui, vers quel modèle d'intégration, finalement, on s'avance. Donc, Sylvie Carbia, vous m'en parliez tout à l'heure, la loi de cohésion sociale. C'est sur cette loi que se basent de nombreux principes et de nombreuses règles pour, justement, tous ces dispositifs et sur la scolarisation des mineurs étrangers. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette loi ?
La question des mineurs isolés et de la scolarisation des ENAF, comme on dit, l'éducation nationale, les élèves nouvellement arrivés en France, date d'avant la loi de cohésion sociale. Moi, je repars à cette période parce que c'est ce que a mis en place ce gouvernement à partir du contrat d'accueil et d'intégration. Je dis ça parce que c'est souvent la réponse qui nous est donnée. Quand on dit, mais qu'y a-t-il pour ces jeunes à partir de l'âge de 16 ans, hein. Moi, je parle des jeunes à partir de 16 ans, puisqu'il n'y a plus d'obligation scolaire. Donc, on sait que le contrat d'accueil et d'intégration qui, au départ, était prévu pour les personnes à partir de 18 ans, a été rabaissé, entre guillemets,
À
16 ans. Donc, c'est une réponse qui est apportée pour ceux qui ne maîtrisent pas l'oral, qui vont pouvoir faire un mois ou deux d'oral, mais pour moi, ça n'est pas une réponse pour ces jeunes qui arrivent avec un bagage scolaire, niveau seconde, première, terminale, et qui voudraient reprendre des études, comme lorsqu'on arrive dans un pays étranger avec sa famille, et quand on a besoin de faire les premiers pas en français pour maîtriser l'oral du français, ça s'appelle du FLE, du français langue étrangère, et donc on a besoin de ça pour pouvoir entamer des études.
Donc, alors oui, et donc à préciser qu'effectivement au niveau national, il n'y a pas de dispositif obligatoire mis en place comme le sont les CLIN ou les CLA qui sont là donc prévus vraiment dans une politique nationale et qui se dessinent donc les CLIN pour les élèves en primaire et les CLA au collège. Donc voilà, c'était simplement pour le préciser. On va revenir de toute façon un peu plus tard sur les différents dispositifs. Et effectivement, il n'y a pas de dispositif prévu par la loi en tout cas. Moi, à mettre obligatoirement en place, mais il en existe un pas très loin d'ici.
Alors, il y a des dispositifs, mais après, ces dispositifs sont mis en place par les académies. Donc, c'est à la bonne volonté des académies. Ça n'existe pas partout. Mm-hmm. Ce qui existe dans cette académie, c'est une bonne chose, c'est ce qu'on appelle le DIPA, dispositif d'insertion des primo-arrivants. Mais je pense que Agnès Dubourg, qui doit arriver, pourra nous en parler davantage. Donc, ce dispositif prévoit, je ne sais pas, 15 ou 20 places, je ne sais plus le nombre exact, mais enfin pour toute l'académie. C'est quand même un effort important mis en place depuis quelques années. C'est au lycée Kessler à Talence, mais ça reste insuffisant. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a besoin de mettre tous les acteurs autour de la table et de réfléchir à une véritable politique linguistique nationale, déjà pour commencer. Mmh. Et ensuite, localement, effectivement, peut-être aussi le Conseil général, le Conseil régional, l'ensemble des acteurs qui font ce qu'ils peuvent, le CIO, le centre d'information et d'orientation qui s'occupe de l'orientation des élèves. Le CASNAV, c'est plus jeune. La mission générale d'insertion. Donc, les élèves nouvellement arrivés en France sont pris en charge d'une certaine façon, mais je dirais quand même que c'est largement insuffisant et surtout, c'est à la bonne volonté des académies et des enseignants qui font ce qu'ils peuvent et c'est très difficile.
Voilà, donc là, vous nous avez donné un peu en avant-goût et vous pointez déjà certains enjeux dont on parlera un peu plus tard. Si on reprend un peu d'un point de vue chronologique, les premiers dispositifs sont en fait apparus en 1970 avec donc la création des classes d'initiation, les CLIN, pour les élèves non francophones dans le premier et second degré. Et puis, en 70, une circulaire qui officialisait vraiment la création des CLIN. Une seconde mesure qui était la mise en place des enseignements de langue et culture d'origine, ELCO, qui était prise en charge par 8 pays d'origine des immigrés dans le cadre d'accords bilatéraux avec la France. Et une troisième mesure, la création à partir de 75 des centres de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants, le CEFISEM, qui est donc devenu le CASNAV. Donc différents dispositifs et on a justement deux actrices un peu du dispositif d'éducation nationale. Donc notamment Yolande Saucès, vous êtes enseignante en CLIN. Alors depuis combien de temps êtes-vous enseignante en CLIN ?
Alors je suis sur la CLIN de Florac depuis, c'est la 8e année, elle a été créée il y a 8 ans. À l'époque, il existait, l'année précédente ma rentrée, il existait 3 CLIN sur la Cube. Et l'année où je suis arrivée, ils en ont créé 2 de plus, 5. Et à ce jour, on est à 11 CLIN sur la Gironde et 4 postes, ce qu'on appelle les postes CRI, les CLIN itinérantes, voilà. Et dans le secondaire, il y a actuellement 3 CLA et une CLA ENSA qui accueillent les enfants non scolarisés antérieurement.
Voilà, donc ce qu'on disait, tout dépend aussi de la bonne volonté de l'académie. Donc effectivement, il y a une évolution parce qu'il y a aussi une évolution et une augmentation des besoins. Finalement, parce qu'on est passé donc par plusieurs circulaires, une en 70, une en 90 et une en 2002. Et on est aujourd'hui régi par cette circulaire de 2002 qui a dû s'adapter aussi à la situation. D'une part, l'augmentation du nombre de mineurs étrangers. Et donc, il fallait bien adapter les dispositifs à cette augmentation. Mais aussi de nouveaux besoins. Et on en parlait aussi avec Isabelle Soriano, le fait que beaucoup de mineurs étrangers viennent sans forcément avoir eu de scolarisation avant. Et donc, c'est encore un nouveau besoin, mais auquel, au final, on n'a pas encore vraiment de réponse ni de dispositif adapté, puisqu'il s'agit d'alphabétisation plus que de français langue seconde ou de français langue étrangère, Isabelle Soriano.
Oui, en effet, on a d'abord un public très mélangé, parce que les migrations sont multiples et nombreuses, étant donné l'état du monde. Donc on a des enfants de langues très diverses, de cultures très diverses, et en majorité dans certains quartiers, d'enfants qui n'ont pas été effectivement scolarisés.
Oui.
Donc il s'agit de leur donner l'envie d'aller à l'école, parce que pour la plupart, étant donné ce qu'ils ont vécu, ils ne voient pas l'intérêt. Ni d'aller à l'école, sachant qu'ils doivent repartir pour la plupart assez régulièrement, et donc une scolarité en dents de scie où ils sont pas forcément bien accueillis, il faut le dire, parce que les choses sont telles que pour l'instant on ne peut accueillir les enfants que dans leur classe d'âge. Mmh. Ce qui suppose, si on a 6 ans, d'entrer en CP, si on a 9 ans, d'entrer en CM1. Et quand on n'a pas la culture de l'école, c'est extrêmement difficile.
Ouais, et on entendra tout à l'heure un reportage qu'on a pu effectuer justement dans votre classe mardi dernier. Et on a pu rencontrer donc plusieurs élèves bulgares du squat qui vivaient sur le squat de l'avenue Thiers. Et justement, David, vous êtes particulièrement dans cette thématique-là. Vous êtes-vous en lien justement avec les squats au quotidien quand on parle de problèmes via sur la durée, parce que justement il faut peut-être repartir. En fait, qui dit scolarisation dit aussi, implique aussi un hébergement et implique aussi une santé. Et vous êtes justement sur ces trois pôles-là.
Pour me présenter aussi, je suis médiateur à la mairie de Bordeaux depuis septembre. Donc j'interviens principalement et spécifiquement auprès des publics et des familles roumaines et bulgares vivant sur Bordeaux en habitat précaire. Donc là, c'est vrai que la question de la scolarisation, c'est une question centrale, mais c'est pas une question isolée en soi. Depuis 2007, donc avec l'entrée de la Roumanie, la Bulgarie, donc les ressortissants roumains et bulgares ont une possibilité de circuler dans l'espace européen, sauf qu'actuellement, et jusqu'en 2014, ils ont un droit de séjour qui est de 3 mois. Au-delà de cette date de 3 mois, ils sont obligés de prouver qu'ils ne sont pas une charge déraisonnable pour l'État. Ce qui veut dire simplement avoir un contrat de travail. Mais pour avoir un contrat de travail, il faut une carte de séjour. C'est un serpent qui se mord un peu la queue. Donc aujourd'hui, on se retrouve aussi avec des enfants à scolariser dont la continuité du séjour n'est pas garantie. Donc actuellement, comment on peut scolariser un enfant sur un dispositif quand déjà, il habite en habitat précaire? La question de la durée de son séjour est tellement floue.
Précaire aussi.
Les conditions de vie sont celles qu'elles sont. Et quand peuvent se rajouter aussi le doute d'une expulsion ou d'une évacuation d'un squat, toute la question de la continuité du séjour et de la validité du dispositif qui a été mis en place pour cet enfant se pose. Un enfant qui a été scolarisé en CLIN ou en CLA pendant 3 mois et qui revient en France 6 mois plus tard, vous savez, et je pense que j'ai des acteurs qui sont très compétents autour de cette table, une scolarisation en CLIN, pour avoir une deuxième année, c'est sous dérogation. Et il en va de même pour les classes. Là, actuellement, il y a certains enfants qui sont passés par ces dispositifs-là, mais qui n'ont pas forcément eu les acquis afin de rentrer dans une éducation, si je puis dire, de droit commun. Donc actuellement, voilà, il y a des scolarisations qui sont très compliquées, de fait aussi, donc de la condition du séjour pour ces migrants-là.
Et alors, justement, autour de la table, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être confronté à cette situation avec des enfants qui revenaient et qu'on ne pouvait plus accepter en CLIN ?
Oui, tout à fait. Des enfants, j'ai accueilli des enfants, effectivement, bulgares, leur scolarité est effectivement irrégulière, puisqu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester, quand c'est qu'ils vont devoir repartir. Et ça, c'est pas les enfants qui le décident, évidemment. Même s'ils ont de l'appétence pour la scolarité, ce qui arrive aussi, même si parfois c'est difficile. Et donc, les enfants, comment s'inscrire dans aussi un projet d'apprentissage d'une langue dans un pays qui est soi-disant accueillant, alors que ce qui se produit, c'est que d'emblée, on les pose dans une discontinuité. C'est vraiment le terme exact. Et nous, ce qu'on constate, c'est l'irrégularité de la présence de ces enfants. Mais comment pourrait-il en être autrement lorsqu'effectivement on est soumis comme ça à l'arbitraire qui fait que du jour au lendemain, la famille peut partir. Ce qui fait que les enfants ne sont pas dans des conditions sereines pour apprendre. Il y a toujours l'inquiétude de rentrer le soir, devoir partir. Moi, j'ai vécu ça en tant qu'enseignante. Des enfants, je ne savais pas s'ils seraient là le lendemain.
Mmh. Je vais rebondir là-dessus. Actuellement, j'ai beaucoup de sollicitations d'école. Alors, c'est quelque chose qui est très chronophage où on me demande... Tel enfant, on ne le voit plus. Est-ce qu'il est toujours sur le squat? Est-ce que c'est de l'absentéisme? Ou est-ce qu'il est reparti en Bulgarie? Donc, c'est quelque chose qui est très compliqué à pouvoir cerner. Mais il y a aussi... je vais prendre l'exemple de mardi matin, d'hier matin. Jeudi matin, descente de police sur un des squats de Bordeaux. Il se trouve que donc, l'OFI propose aux familles volontaires de s'inscrire pour un retour humanitaire volontaire financé à 300 € par adulte et 100 € par enfant. Ce qui se passe pour les autres familles, c'est que énormément ont eu leur passeport ou leur pièce d'identité prise par la police, avec une obligation de se rendre au commissariat. Moi, j'ai certaines familles actuellement qui sont dans une démarche de vouloir scolariser les enfants et qui n'ont pas leur papier d'identité, juste un document de la police qui leur a été remis par la police et qui doivent faire ces démarches avec ce papier dont on n'est pas forcément on n'est pas au courant de la de la validité pour réaliser certaines démarches administratives. Et qui plus est, devoir prouver son identité avec un papier de la police, moi je trouve que quelqu'un qui me prouve son identité avec un papier de la police, ça peut entraîner une suspicion sur son parcours et son identité. Donc c'est des choses qui sont... C'est des réalités qui sont dures et complexes aussi.
Et des freins, effectivement, à la scolarisation. Agnès Dubourg, vous nous avez rejoint. Vous êtes, donc je le rappelle, professeure au lycée professionnel Jacques Brel de Lormont. Donc la situation, elle est peut-être un peu différente pour les personnes qui sont au-delà de 16 ans, où vous retrouvez dans ce que dit David Dumont.
Non, effectivement, c'est différent dans la mesure où nous, pour inscrire les élèves donc, qui ont plus de 16 ans, on n'est pas dans l'obligation de demander un document d'identité. Tout ce que l'on est tenu de regarder, c'est la filiation, si c'est une personne adulte qui nous amène l'élève et qui n'est pas encore majeur. Mmh. Voilà. Donc, pour inscrire l'élève, il n'y a pas de problème.
Et au niveau de la présence et de la régularité, est-ce que c'est des problématiques différentes également ?
Généralement, les élèves que l'on a, ils sont déjà adolescents. Et ce sont des élèves qui sont très motivés, qui s'accrochent au niveau de la scolarité. Voilà. Les problèmes arrivent lorsque, effectivement, la majorité se présente et que donc ils doivent avoir un titre de séjour pour pouvoir rester sur le territoire français. Voilà, alors là, effectivement, on a toutes les problématiques et avec toutes les conséquences que cela engendre au niveau de la scolarité. Et parce que pour eux, c'est très difficile, c'est très angoissant comme bien situation. Sûr. Et parfois, ils sont déprimés, effectivement, pour... ce sont des moments très, très difficiles.
Et ils sont parfois obligés, ils reçoivent une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et obligés de repartir au milieu même de ce processus-là de scolarisation.
Voilà, enfin, disons que généralement, le réseau Éducation sans frontières s'occupe donc du dossier de l'élève de façon à pouvoir faire une demande de titre de séjour en préfecture, de façon à ce que l'élève ne soit pas expulsé.
Oui, on va revenir ça justement sur les différents liens entre tous ces acteurs qui sont autour, les associations, l'éducation nationale. Mmh. Sylvie Carbia, vous vouliez intervenir ?
Oui, pour les jeunes qui ont entre 16 et 18 ans que nous accueillons au centre social, en fait, d'une part, ils ne sont pas, quand ils arrivent avec leur famille, ils ne sont pas forcément au courant de ce qui existe. Donc, soit ils ne vont pas tout de suite dans les endroits où ils devraient aller, notamment le CIO s'ils veulent reprendre un parcours. Et nous les avons trouvés au centre social. En réalité, ils viennent à la porte pour des raisons de proximité, ils viennent au centre social.
Alors, justement, vous avez un dispositif un peu particulier au centre social. Vous pouvez nous expliquer peut-être la mise en place
Donc on les accueille, mais on s'est posé la question parce que théoriquement nous devions accueillir les personnes à partir de 18 ans, mais on s'est vu arriver des jeunes et donc on s'est posé la question, on s'est dit pourquoi sont-ils ici ? Alors effectivement quand ils arrivent en cours d'année, là, on peut comprendre, mais quand ils arrivent en début d'année, ça dépend parce que les propositions qui peuvent être faites sont parfois très vite remplies. Quand on dit que c'est la bonne volonté de l'académie, c'est avec les moyens qu'elle a et malheureusement, avec les moyens restreints qu'elle a, c'est pas qu'elle ne veuille pas. Je pense qu'il y a une vraie prise en compte par le monde enseignant de cette difficulté. Mais les moyens sont largement insuffisants. Donc, le centre social a commencé par accueillir et finalement, heureusement, nous avons pu avoir un poste pendant 3 ans mis à disposition par l'académie sur cet accueil. Nous avons accueilli les jeunes primo-arrivants entre guillemets dans l'attente de l'entrée dans un parcours scolaire. Donc de suite renvoyé vers le CIO pour une inscription et ensuite très souvent donc dans les MGI voilà.
Mais que les places sont suffisantes pour le nombre de personnes que vous accueillez
pas toujours,
au centre social?
Pas toujours. Alors, d'une part, les places ne sont pas forcément suffisantes. D'autre part, ils n'ont pas forcément... par exemple, Isabelle le disait tout à l'heure, les jeunes qui n'ont jamais été scolarisés, qui sont alphabétisants, il y a des réponses vraiment très, très succinctes. Et parfois, il faut qu'ils restent 1 an ou 2 ans chez nous pour pouvoir ensuite aller vers un parcours. Donc, il n'y a pas forcément de réponse pour tous. Ensuite, s'ils ont 17-18, c'est plus difficile que s'ils ont 16-17. 16-17, on va pouvoir. Ensuite, s'ils parlent français, parce qu'ils ont été dans un pays francophone, il n'y a pas vraiment de réponse non plus. C'est du FLE qu'on leur propose. Donc, il y a vraiment des parcours spécifiques pour lesquels il n'y a pas de réponse. Et là, les associations prennent le relais. Alors, on peut dire que c'est normal, en quelque sorte, au départ, puisque des associations interviennent là où le droit commun s'arrête.
Effectivement, mais elles font remonter justement les besoins qui apparaissent sur le terrain aux institutions. Voilà. Alors, la question maintenant est la prise en charge, finalement, des politiques publiques de ces besoins-là et adapter des dispositifs pour les nouveaux besoins qui s'affichent sur le territoire. Là-dessus, justement, comment s'organisent un peu les remontées entre vous, vos travaux en tant que professeur, travailleur au centre social ou médiateur sur les squats? Comment est-ce que vous remontez ces problématiques-là aux politiques publiques?
Là, on a vraiment l'intention de, puisque nous sommes sur un nouveau projet, un nouveau contrat d'agrément et que tout va être mis sur la table. Parce que quand je dis que nous accueillons les jeunes, bon, pendant 3 ans, c'était avec Isabelle Soriano, justement, qui était venue au centre social mis à disposition par l'académie. Donc, on pouvait justifier d'accueillir des jeunes des autres communes. Aujourd'hui, le problème se pose parce qu'il faut mettre en place un projet pour ce nom.
Et donc,
que vont devenir ces jeunes qui venaient d'un peu partout? Je n'en sais rien. Bon. Ça n'a pas été au détriment, heureusement, des Senonais. C'est l'objectif aussi. Donc, les Senonais en ont profité parce que nous avons mis en place des accueils supplémentaires. Donc, ça a permis d'ailleurs à ceux qui travaillaient de pouvoir intégrer les cours du soir. On a mis en place des cours du soir, d'autres cours. Mais malgré tout, l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Mais c'est vrai que nous travaillons en partenariat dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Persévérance avec la région, la mission locale... l'éducation nationale et les structures de proximité qui interviennent sur ces jeunes primo-arrivants. Peut-être que sur le partenariat, Agnès peut aussi dire comment ça se passe avec les structures.
Oui. Bon. Au niveau de la rive droite, c'est vrai que le partenariat est quand même assez serré, ce qui nous a permis justement d'avoir sur la zone... une classe de non-francophones au lycée Jacques Brel, mais également des dispositifs pour aider les élèves qui sont non-francophones et qui sont scolarisés en dehors de ce dispositif-là, puisqu'il y en a, les dispositifs ne permettant pas d'absorber toutes les demandes. Voilà. Donc, pour l'instant, rive droite, on peut dire qu'on est quand même assez gâté par rapport à la rive gauche, parce que des actions de ce style-là pour accompagner ces élèves, il y en a quand même très peu. Il y a des actions qui se font sur Bordeaux Nord et Isigny, mais l'essentiel se fait rive droite. Voilà.
Et pour vous, les remontées comme ça de vos problématiques par rapport aux politiques publiques, comment est-ce que ça se passe ?
Alors, dans l'école primaire, on a à peu près une fois par mois un pointage des effectifs dans les CLIN, notamment. Mais on voit bien qu'actuellement, à peu près un peu partout, notamment à la Benoge, où il n'y a pas de CLIN, il y a beaucoup d'arrivées d'enfants. Et donc, je ne sais pas cela, comment ils sont comptabilisés à ce jour.
Alors, Isabelle Soriano, justement. Voilà, donc, je rappelle que vous êtes professeure, justement, à la Benoge.
Oui, donc, comme l'a dit Sylvie, j'ai travaillé au centre social de Senon avec les jeunes, primo-arrivants, donc, et les moins jeunes par la suite. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je trouvais que le mélange était intéressant et très riche. J'ai donc été réintégrée dans le cursus éducation nationale. Avec un poste dont l'intitulé est BDFLS, ce qui veut dire Brigade départementale français langue seconde, et qui concernait 3 écoles au départ. 3 écoles de la rive droite, avec un effectif de 62 inscrits et 48 présents. Je dois dire que...
Et donc, vous seul donné... missionné sur, pour tous ces enfants.
Voilà. Alors, il était question au départ qu'il y ait 2 postes, mais même pour 2 postes, ça aurait été largement insuffisant. Ça a été un petit peu une bataille au départ, je dois le dire. Effectivement, c'est un public, comme on a dit, fluctuant, mais il l'est d'autant plus que, je pense, il se sent mal accueilli. Il n'y a pas de véritable accueil, intégration, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais accompagnement, intérêt pour ses enfants. Et donc, on a fait remonter effectivement à l'académie que non, c'était mission impossible et qu'il fallait faire la différence entre le FLE, justement, français langue étrangère d'enfants qui avaient déjà été scolarisés, et l'ALFA, qui concernait la majorité des enfants. Mmh. Et bon, donc je me retrouve à présent avec une mission qui est un peu plus recadrée, qui est la mission d'Alpha, c'est-à-dire d'accompagner les enfants non scolarisés, sachant que les autres ne sont pas forcément pris dans les clines, parce qu'il n'y a pas de place. Et donc sont voués, et ça je tiens à le dire quand même, on dirait que tout est fait, excusez-moi de le dire comme ça, mais j'ai vraiment cette impression, pour que ces enfants se retrouvent un jour en échec, parce qu'il est bien évident qu'on ne met pas les moyens, on ne met pas les moyens qu'il faudrait pour les accompagner, si bien qu'ils sont en retard, donc considérés comme en échec, et on les envoie après dans les classes spécialisées qui n'ont rien à voir avec leur problématique, quoi. Mmh. Et encore, il y reste encore des classes spécialisées, mais bientôt, il n'y en aura plus. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment... Il faut poser la question, je crois que c'est une question urgente et qui en découle beaucoup de choses.
David Dumont.
Oui, alors, bon, des fois j'ai parfois aussi l'impression qu'il y a beaucoup d'associations ou d'individus, de militants qui se bougent pour des familles quand il y a le feu, quand il y a une OQTF. Mais la question de l'accompagnement vers ces dispositifs qui existent.
Oui, des dispositifs qui existent, mais c'est voilà. Le lien entre voilà, le public concerné et le dispositif.
Qui ne parle pas forcément la langue. Qui n'a pas forcément de repères dans cet espace urbain, mmh. Comment on les amène vers les dispositifs ? Pour une scolarisation au collège, il faut passer par le CASNAV, confirmé. Pour avoir fait l'expérience, vous voulez prendre un rendez-vous au CASNAV ? Moi, j'ai eu 2 mois d'attente en septembre.
Alors, je précise que le CASNAV était donc invité à cette émission et qu'ils n'ont pas souhaité participer. Je tiens à le préciser.
Et je suis pas là pour tirer à vue sur le CASNAV. Mais voilà, quand... et en plus, je vais répondre à votre autre question. Quand voilà, on a 2 mois d'attente pour avoir une évaluation en vue d'une orientation, une année scolaire, vous savez que ça ne dure pas 1 an. Alors, on parlait de la discontinuité du séjour et de ces problèmes d'apprentissage que ça peut avoir. Voilà, là déjà, je pense qu'on a aussi un élément. Un autre point à dire, c'est voilà sur actuellement, moi j'ai il y a des enfants qui habitent sur Bacalan et par défaut de place en CLA vont à Léonard Lenoir, voilà.
Qui est situé précisément pour les visiteurs,
qui est situé le long de l'avenue Thiers dans le secteur de la Bastide. Donc voilà, là aussi vous avez aussi peut-être un frein à la scolarisation, mais ce que je vous l'ai dit encore, là, vous me posiez la question sur comment on travaille aussi avec les pouvoirs publics. C'est vrai qu'avoir une casquette mairie, pour avoir eu une casquette militante assez longtemps, je me rencontre aussi des nouveaux outils que je peux avoir. Quand on me dit 2 mois d'attente pour un rendez-vous au téléphone, et qu'on me dit au final, non, mais vous savez, les familles, c'est à elles de faire la démarche de scolarisation, et que j'envoie un mail, et que je mets en copie Brigitte Collet, adjointe à Juppé sur la famille et l'éducation, par miracle, je gagne 1 mois d'attente. Mmh. Donc voilà, c'est souvent une bataille où, sur laquelle
règne un peu... Qui fonctionne par réseau aussi.
Et par pression, au final, entre les compétences et les responsabilités de chacun. Et malheureusement, on est obligé des fois d'en passer par là.
Oui, Sylvie Carbia voulait ajouter quelque chose.
Ouais, moi je suis assez d'accord. Bon, moi, ça fait plus de 10 ans hein, que je suis maintenant sur ce nom, mais c'est vrai que le partenariat, il est essentiel. Donc, ça veut dire aussi de la part des professionnels, quels qu'ils soient, que ce soit dans le monde enseignant, dans le monde des associations, travailleurs sociaux, il faut absolument qu'on se tienne au courant de ce qui existe, des premières personnes qu'il faut rencontrer et aller vite, bien
et
sûr.
Et des personnes
faut...
mobilisées.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec le CIO, le centre social, et la mission générale d'insertion, on a maintenant une relation très forte et très rapide. Et au contraire, je veux dire, on est tous demandeurs d'aller le plus vite possible. Alors les réponses n'existent pas tout le temps, malheureusement, mais je crois qu'il faut aller vers une réflexion globale, partenariale et avec l'ensemble des acteurs, l'État et la préfecture également. Enfin, je sais qu'on a eu aussi des financements sur nos actions d'alphabétisation par l'État et la préfecture. Donc, heureusement que par des petits bouts, on arrive à des quand même à pouvoir tenir. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'organismes de formation aujourd'hui qui sont en difficulté, qui ont fermé les portes, qui n'existent plus. Donc, globalement, au niveau national, il faut quand même dire qu'il n'y a pas l'appui suffisant. Et c'est depuis ce niveau-là que le problème se pose.
Voilà, donc on parle bien de politique nationale et d'une...
Et je voulais juste terminer sur l'histoire de rive gauche, rive droite. Pour ma part, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas un dispositif d'insertion des primo-arrivants équivalent à celui qui existe au lycée Kessler à Talence sur la rive droite, parce qu'il y a suffisamment d'élèves pour ça. Donc je pense qu'il faut absolument, dorénavant, que nous nous voyons autour de la table, tous donc, ensemble, tous les acteurs confondus.
De qui relèverait la création d'un dispositif du DIPA, donc, comme vous le dites?
C'est une question de moyens, bien sûr que c'est la...
C'est la mission bien sûr. Générale d'insertion, bon, qui a quand même déjà fait l'effort de scolariser donc les plus de 16 ans, hein, puisque les moins de 16 ans partent en classe d'accueil, niveau collège. Il faut savoir qu'il y a seulement 5 classes d'accueil sur l'académie. L'académie est grande, quand même. Ça souligne le problème de place. Et par contre, la mission générale d'insertion pour les élèves de plus de 16 ans s'occupe de 3 dispositifs. Le DIPA au lycée Kessler de Talence, une classe de 15 élèves au lycée Jacques Brel, hein, élèves non francophones de niveau A1, et des élèves qui sont de niveau A2, c'est-à-dire un peu plus avancés en langue française, sur le lycée Émile Combes à Bègles. Voilà.
Donc, quand même, donc, des dispositifs mis en place. Mais...
Si on mesure donc l'accueil des plus de 16 ans soutenus par la mission générale d'insertion, c'est quand même pas négligeable sur le département comparativement à 5 classes d'accueil sur l'académie.
Bon, alors, je vous propose de faire peut-être une petite pause, mais enfin, pas vraiment une pause. On va écouter le reportage qui a été fait donc mardi dernier dans une des classes d'Isabelle Soriano. Et on écoute tout de suite ce reportage et on pourra peut-être le commenter et rebondir dessus juste après.
C'est tout. Bonjour, je m'appelle Bécho, je suis 9 ans, j'ai 9 ans. Je viens de Bulgarie et je suis bulgare. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 10 ans, je viens de Bulgarie.
Et Totoya Tita
papa, yepala papa,
Totoya Tita mamo,
yepala mamo,
Totoya Tita bebe,
yepala bebe,
Totoya Tita meme,
yepa,
yepa, siapa,
ni tonto ni tatata, etc. À quel bonheur! Je viens voir ta sœur.
Oui.
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 On va s'arrêter là.
Je suis 12 ans. Le Bulgarie. En vert.
Bonjour, je m'appelle Petra. Je suis 10 heures. J'ai 10 ans. Je suis venue au Bulgarie.
Bonjour. Je m'appelle Genjibai, j'ai 10 ans, je viens Bulgarie, Bordeaux, Bastille.
Est-ce que quelqu'un peut me dire depuis combien de temps vous êtes ici?
Avant, beaucoup ici.
Beaucoup ici, oui. À l'école,
bien
longtemps. Oui. Combien de temps vous étiez là?
Oui, beaucoup trop.
Mais étant. Et où est-ce que vous vivez? Vous habitez où? Elle est où votre maison?
Squat.
Pas la squat, c'est le squat.
Squat Bastille.
Squat
Bastille.
Comment elles sont vos maisons?
Qui peut me les décrire?
Comment elles sont? En pierre? En bois? Comment?
Petit.
C'est pas en bois?
Bois.
Ne zaman sevgilim, ne zaman. Ben aşkların yalancısıyım. O zaman ben zalimlerin yalancısıyım. O zaman fini.
Est-ce que vous êtes bien à l'école?
Oui.
Il y en a qui me disent je n'aime pas l'école. Pourquoi? Pourquoi il y en a qui me disent je n'aime pas l'école?
Parce qu'il est beaucoup crié, ils sont beaucoup bagarres.
Lui qui se lève beaucoup bagarre.
Tout le temps.
Et toi non, hein?
Un peu. Tout le temps.
Et pourquoi tu te bagarres, Stéphane?
Pourquoi?
Parce que beaucoup énervés, moi, en même temps.
Et pourquoi t'es énervée?
Beaucoup dit avec bulgare, comme ça, c'est comme ça. Moi, énervé avec ta pluie.
T'es énervé pourquoi? Parce qu'on dit des choses sur les Bulgares?
Oui.
Et qu'est-ce qu'on dit?
Ah, c'est bulgare beaucoup comme ça.
C'est quoi, les vêtements?
Oui.
Ils veulent pas te dire bonjour?
Moi, bonjour. Non, non, dégage. Ils m'ont enlevé, ils t'ont fait.
Celle qui parle.
Elle a dit, bulgare, lâche-moi, attrape pas moi. Et c'est vrai, ils sont bagarrés.
Jean Petit qui danse, de son doigt il lance.
Eh bien, un jour, Stéphane ne voulait pas travailler. Il ne voulait pas apprendre à écrire et à lire. Alors j'ai demandé à Stéphane, chantez-moi une chanson. Et je l'ai enregistrée. Après, nous l'avons écoutée et je l'ai écrite. Et j'ai pu la chanter tout de suite après avec eux. Et là, je crois que ça leur a donné envie d'écrire.
Alors, d'accord. 3, 4. Levi desni, levi desni, shteve vinapet. Levi desni, levi desni, shteve vinapet. Imame si pushki, opa pure dreshki. Imame si pushki, opa pure dreshki. Levi desni, levi desni, shteve vinapet.
Voilà, on a un exemple donc d'une classe donc animée par Isabelle, enfin animée, dont Isabelle est la professeure. Je voudrais qu'on parle justement un petit peu des outils pédagogiques et des supports sur lesquels on peut s'appuyer quand on est dans une classe français langue seconde, français langue étrangère, alphabétisation. Isabelle Soriano, des chansons pour apprendre les parties du corps.
Les chansons, oui, les chansons. Et puis surtout, dans une culture telle que celle-là, parce que ça fait partie de leur culture. Enfin, tout ce qui, à mon avis, aussi met en valeur leur culture. Pour qu'il y ait un lien entre leur culture et la nôtre. Alors bon, la chanson, les arts plastiques. Mais quand vous dites les outils qu'on a en FLS, en FLE et en Alpha, c'est pas les mêmes.
Oui, bien sûr.
Forcément. Enfin, je pense que ma collègue à côté parlera mieux des outils en CLIN, puisqu'il s'agit d'enfants qui ont déjà été scolarisés. Je pense que c'est pas les mêmes. Quand on enseigne l'alphabétisation, d'abord il faut partir de la langue. Donc je vais beaucoup d'oral. Il faut que le son, la phonétique soit passée et soit bien claire pour qu'on puisse faire le lien entre la lettre et le son. Et puis aussi il faut donner le goût. Il me semble il faut donner envie de venir, quoi. Donc ça passe par le bricolage et par le bidouillage, je dirais. Voilà, deux outils.
Et bricolage, bidouillage, est-ce que vous avez des supports écrits, des manuels fournis par l'éducation nationale?
Ah non, pas non, du tout. Aucun. Enfin, dans une des écoles, je n'ai pas de matériel. J'ai fait appel à la solidarité des collègues. Dans l'autre des écoles, j'ai eu le droit à une subvention mairie.
D'accord. Donc pour vous, c'est très différent, Yolande?
En CLIN, on peut accueillir des enfants qui n'ont jamais été scolarisés auparavant. La différence, c'est qu'ils sont plus jeunes. Donc, effectivement, on part de moins loin que dans le secondaire pour tout ce qui est des apprentissages. Mais c'est vrai que le travail va se faire en CLIN. L'objectif, c'est le français langue de scolarisation, puisque l'objectif, c'est vraiment que les enfants intègrent le plus rapidement possible le cursus scolaire français et puissent poursuivre leur scolarité en France. Donc, d'entrée de jeu, effectivement, il va y avoir l'oralité, hein, très importante, puisque bon, il faut pouvoir parler la langue, mais on est aussi très vite dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Tout ça est simultané. On passe de l'un à l'autre sans cesse. Donc, c'est vrai que pour des enfants qui n'ont pas été scolarisés antérieurement ou pour des enfants dont la culture n'est qu'orale, hein, je pense aux enfants vraiment de langue romanie, la plupart n'ont pas appris à lire et à écrire, leur seul repère c'est l'oralité. Donc évidemment, tout ce qui est musique, tout ce qui est chant, tout ce qui passe par la voix et le corps, je rajouterais, est quelque chose qui les aide vraiment à progresser. Voilà, j'aimerais bien que la musique arrive à adoucir leur quotidien, oui.
David Dumont.
Je profite aussi d'être à O2 et bon, déjà, je vous remercie. Et pour faire un petit point sur déstructurer un peu certaines représentations qu'on peut avoir sur les populations bulgares et roumaines qui vivent sur les squats. Là, depuis tout à l'heure, on dit bulgare, mais dans la tête des gens, souvent, on dit rome. Et vous parlez de l'oralité de la culture.
C'était des enfants bulgares vivant sur le squat de l'avenue Thiers.
Voilà, mais si on écoute bien la première chanson qui a été chantée, elle était en turc.
Bulgare et turc.
Voilà. Bulgare et turc.
Il y a de la diversité culturelle au sein même des squats, et c'est pas parce qu'on est rome à Bordeaux qu'on vit en squat. Et c'est pas parce qu'on vit en squat à Bordeaux qu'on est rome et que nos parents tapent la manche. Voilà, donc il faut vraiment aussi peut-être que, au final, on a l'impression de repartir toujours à zéro dans le rapport à l'autre. Et là, on est en plein dedans. Et voilà, je profite aussi de ce petit moment.
Déconstruire les stéréotypes et donc les idées reçues. Mais bon, c'est vrai que le changement de mentalité sur des publics auxquels les gens n'ont pas peut-être un accès direct parce que la langue n'est pas là, on communique peut-être pas énormément, etc. C'est là où le changement de mentalité devient difficile aussi.
Alors, je reprofite encore un petit peu de ça parce que tu me tends un peu une perche et il y a quelque chose qui me tient à cœur. C'est quand je vois aussi certains militants culturels voilà, qui font la promotion de la culture romanesque sur les squats, c'est quelque chose que je bon, en plus je pour en avoir fait pendant pas mal d'années ça me tient aussi à cœur, mais c'est dommage au final de ne pas avoir une même dynamique sur l'accompagnement des familles vers le droit commun, que ce soit vers un temps périscolaire, un temps sur le mercredi après-midi, sur le temps de vacances. Et voilà, parce que quand on se retrouve avec une espèce de tsiganophilie qui est là et qui est pleine de bons sentiments, au final on se rend compte qu'il peut y avoir beaucoup de dégâts derrière tout ça. Et c'est des personnes, si, quand nous on se sent parfois un peu isolé, enfin, l'accompagnement vers le droit commun, que ce soit vers l'éducation, mais je parle aussi de la santé.
L'accès à la santé.
Actuellement, bon, à part le médecin du monde, un petit peu, mais il y a beaucoup plus de curieux, des fois, ou, ce que je disais, de tsiganophiles, qui vont se bouger autour de cette culture-là. Mais dès qu'il s'agit aussi de créer un lien auprès des familles et d'aller ensemble vers du droit commun, des fois, je pense qu'on est beaucoup, on est certains à s'être retrouvés un peu seul, des fois autour de la table.
Sylvie Carbia.
Oui, moi, je, puisque c'est le centre social, hein, donc c'est quand même une structure sociale et culturelle. Donc forcément, les activités d'alphabétisation de français langue étrangère vont être traversées par toutes les approches sociales et culturelles que nous pouvons avoir. Donc, bien sûr qu'on propose des cours de français avec des professionnels formés aussi. Hein. Nous avons des professionnels formés à l'université, donc et des bénévoles très qualifiés qui arrivent du monde de l'enseignement pour beaucoup, qui sont à la retraite. Mais on va accueillir des intervenants, on va organiser des débats. Et on va mettre en place des systèmes de traduction avec les uns et les autres. Donc les débats vont intéresser. On va faire des sorties, des visites, on va monter des projets. Le printemps de la poésie en est un. On accueille un poète, un écrivain grâce à l'association Alif, qui est opérateur culturel, qui nous finance l'arrivée de ces plasticiens, de ces conteurs, de ces calligraphes. Et donc grâce à cela, nous pouvons mettre en place un projet et chaque année présenter un grand spectacle au printemps de la poésie, à la médiathèque. Donc tout ceci est valorisant. Je dirais que pour les enfants aussi, ce qui est très très intéressant, c'est le lien qu'il peut y avoir avec le fait qu'ils soient inscrits dans des structures de proximité type centre social, centre d'animation ou association de loisirs. C'est qu'en apprenant les règles de la vie en collectivité le mercredi ou en venant dans les cours d'accompagnement ou de périscolaire, d'aide aux devoirs ou de périscolaire, ces enfants, en ayant moins le stress de l'école, puisqu'il y a quand même un lien privilégié, il y a un travail collectif, il y a une vie de groupe, c'est un passage intermédiaire qui leur permet de mieux appréhender ensuite le monde scolaire. Donc je crois que nous avons tous à travailler ensemble et ces enfants notamment, mais tous les enfants et tous les jeunes peuvent bénéficier bien sûr de nos structures, au contraire, je veux dire, c'est la mixité qui est intéressante, mais ça permet effectivement d'aider et je pense que ces enfants primo-arrivants ont tout intérêt à intégrer des structures d'animation et de loisirs complémentaires au monde de l'enseignement.
Et vous le disiez tout à l'heure, Isabelle Soriano aussi, le fait de travailler justement avec cette mixité entre des enfants étrangers et des enfants non étrangers est particulièrement intéressante parce que et j'imagine qu'ils s'apprennent aussi justement mutuellement. Le fait qu'ils soient quelque part peut-être un peu marginalisés, pointés du doigt, parce que dans des dispositifs spécialisés dans les écoles, vous pensez que ça peut être un frein aussi dans leur intégration ? Là, on l'entendait, hein, les bagarres, etc. Peut-être qu'à un moment, un accompagnement spécifique est nécessaire, mais est-ce que ça ne pourrait pas se faire en commun avec d'autres élèves ?
Je voudrais préciser quand même que les CLIN sont des classes ouvertes, c'est-à-dire que les enfants sont inscrits dans la classe d'âge et ils viennent en CLIN pour un temps, ça se fait à la carte, c'est en fonction des besoins des enfants, au minimum un mi-temps au début, mais ils ont le reste du temps dans la classe avec leurs camarades, bien parce sûr. Que sinon on ne peut pas parler d'intégration bien ou d'inclusion. Sûr, il faut forcément, pour l'avoir vécu par des petits moments au début quand j'étais sur cette classe, lorsque les enfants se retrouvent en CLIN et que c'est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture avec les autres, là oui, là on est dans une classe ghetto, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas créer des liens avec les autres. Si la classe est très hétérogène, qu'on a des enfants d'origine très différente, il n'y a pas de souci parce qu'ils vont bien être obligés de parler français parce qu'ils ne peuvent pas communiquer autrement. Mais dans le cas où on accueille beaucoup d'enfants d'origine bulgare, et c'est vraiment le cas actuellement, hein, la plupart des CLIN sont en majorité avec des enfants bulgares, c'est très compliqué parce qu'ils parlent bulgare entre eux ou ils parlent turc parce qu'effectivement, ils ont aussi d'autres apprentissages, vraiment. Donc le but, c'est quand même de prendre tout ça en compte. Et du coup, le français est beaucoup plus difficile à apprendre puisque ce n'est pas nécessaire si on est entre compatriotes.
Et alors, est-ce qu'à un moment, prendre sur toute une école, à un moment précis, tous les enfants bulgares qui sont dans l'école pour un moment d'apprentissage du français, est-ce que ça ne peut pas avoir un côté discriminant ou...
Oui. C'était le sens de ma question.
Alors ça, c'est plutôt dans le dispositif, comme ça, où quelqu'un arrive de l'extérieur. Quand la classe existe dans une école, elle est prévue pour accueillir des enfants de différentes nationalités. Moi, actuellement, j'ai pas que des enfants bulgares dans la CLIN. D'accord ? Voilà. Et donc, ils font des allers-retours entre la CLIN, où ils viennent pour vraiment travailler spécifiquement le français, et la classe où ils vivent des activités avec leurs camarades, en priorité. De toute façon, même dès qu'ils arrivent, dès le premier jour, ils sont à l'école, ils sont dans la classe d'accueil, et ils vont aller en tout ce qui est éducation musicale, éducation motrice, tout ce qui, dans un premier temps, peut être, ils peuvent participer à des activités rien qu'en regardant, pratiquement, j'ai envie de dire, ce qui se passe à côté, et essayer de le faire en suivant l'exemple des autres. Voilà, donc en majorité, effectivement, ces activités motrices et artistiques. Mmh.
Isabelle Soriano, peut-être, vous qui connaissez bien ces enfants-là, vous ressentez ce côté un peu discriminant, peut-être,
moi,
éventuellement ?
Moi, je pense que ce serait discriminant, effectivement, de les regrouper dans ce contexte-là. Hein, peut-être que dans d'autres contextes, c'est différent, sûrement, d'ailleurs. De les regrouper, d'abord parce qu'ils n'ont pas le même âge. Hein, on va de 6 à 12 ans, donc on sait tous qu'entre 6 et 12 ans, on ne pense pas du tout les mêmes choses et on n'a pas les mêmes besoins. Alors, si, on peut les regrouper sur des moments, à projet, enfin, où on fabrique quelque chose ensemble, comme par exemple un projet cirque cette année, où là, ils sont tous regroupés. Je parle de tous ceux qui sont scolarisés, hein. Mais ensuite, au niveau des apprentissages, il est bien évident qu'on peut pas, en dehors des séquences orales où on peut faire des choses, quand il s'agit de savoir tenir un crayon, de faire du graphisme, on fait pas de la même façon entre un enfant de 6 ans et de 12 ans. Donc moi je pense que ça serait discriminant. D'ailleurs, vous avez vu que moi je fonctionne comme ma collègue, c'est-à-dire en classe ouverte je prends des petits groupes.
Bien sûr.
Il m'arrive de prendre le grand groupe, mais il n'y a pas besoin de ça. Je pense que sur un projet d'école, par contre, quand il y a comme ça un nombre important de primo-arrivants, ce serait intéressant de travailler avec toute l'école et avec un système peut-être de comment on appelle ça, de partenariat, de tutorat. Et les enfants sont très contents d'apprendre à d'autres enfants, d'enseigner à d'autres enfants, si c'est conduit, si c'est amené, si c'est réfléchi, voilà, je dirais, parce que ils sont victimes, et moi je le vois tous les jours, de racisme, et je comprends qu'ils en aient assez.
Ce genre de tutorat, justement, de mise en tutorat, peut être amené par des directeurs d'école ? Est-ce que c'est dans leur possibilité?
Oui, enfin, l'idée peut être insufflée par un directeur d'école et par n'importe lequel des enseignants, mais encore faut-il que l'équipe morde.
Ouais.
C'est ce que je voulais dire. L'accueil des enfants nouveaux arrivés en France, c'est l'affaire d'une équipe, c'est pas l'affaire de l'enseignant de clean ou de l'enseignant qui reçoit cet élève dans sa classe. C'est vraiment, dans les textes, c'est écrit spécifiquement que c'est l'affaire d'une équipe.
Une équipe puis, d'enseignants, et pas que d'enseignants.
Puis on a, moi j'ai vu la situation, sur, l'an dernier il y avait eu un protocole sur la scolarisation des enfants ENAF qui avait été écrit, co-écrit avec les associations, l'inspection académique et la mairie de Bordeaux, pour rappeler qu'est-ce qui était obligatoire et qu'est-ce qui était facultatif dans la scolarisation d'un enfant. Quand, dans une école, on demande un vaccin sur le ROR ou une assurance pour l'enfant, ce n'est pas obligatoire. Et pourtant, moi, je me suis retrouvé face à des écoles où c'était porte-close parce que nous n'avions pas le ROR, alors qu'ils avaient le DTP, qui était le seul vaccin obligatoire. Mmh. Et puis, il faut faire des pieds et des mains pour après réussir à ouvrir les portes de l'école. Et quand les portes de l'école, on les ouvre à la barre à mine, eh ben, on sait très bien quel type de scolarisation on va avoir derrière.
Oui, quel accueil va être fourni derrière. Eh bien, c'est peut-être l'heure de nous quitter progressivement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, tout ce temps que vous êtes, avant qu'on se quitte, Sylvie Carbia?
Oui, moi, je voudrais quand même dire que ces enfants et ces jeunes, c'est aussi l'avenir de la France et que c'est une richesse. C'est une richesse. Ce sont des enfants et des jeunes qui, à partir du moment où ils arrivent à rentrer dans les rails des apprentissages, de la vie en collectivité, eh bien, ces enfants nous apportent énormément. Que c'est aussi l'avenir, parce que nous le savons tous, nous allons avoir besoin de main-d'œuvre qualifiée dans les années qui viennent. Donc, à la fois pour eux-mêmes, par rapport à leur richesse, mais à la fois pour les besoins dont on parle tant en économie, en main-d'œuvre. Eh bien, nous avons tous à gagner de cette richesse et de ces cerveaux aussi, hein, futures personnes qui vont participer à notre avenir commun. Donc, je crois qu'il faut au contraire miser sur cette richesse, miser sur cet échange. En tout cas, c'est vrai que nous avons quand même des soutiens locaux. La mairie de Senon finance beaucoup le centre, la caisse d'allocation familiale également. Donc ça, c'est important de le dire parce que ce sont des aides sur lesquelles nous pouvons compter. Donc, et le conseil général, enfin, nous avons des réunions. Donc, je demande pour ma part, dans les années qui viennent, qu'il y ait vraiment un rassemblement des partenaires sur ces questions. Et je crois que nous ne pourrons pas y échapper. C'est pas chacun qui va faire pour le mieux dans sa chapelle, c'est vraiment tous ensemble. Et c'est une autre manière de travailler. Je sais que l'école aujourd'hui est en train de s'ouvrir aussi de différentes manières, et c'est l'occasion de travailler ensemble.
Aux acteurs locaux, effectivement. Ouais. Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, l'école est en train de s'ouvrir, mais l'école est aussi en train de souffrir de ce qui se passe au niveau
c'est vrai.
La mise à mal quand même l'éducation nationale, toutes les suppressions de postes, c'est quand même une réalité. Bien On sûr. Ne sait pas quel va être à l'avenir ce dispositif. Vu comment est mis à mal, par exemple, le dispositif là des aides spécialisées, puisque nous on est dans des réseaux d'aides spécifiques. Vu ce qui se passe et vu comment c'est vraiment des suppressions de postes à tout va.
Est-ce que ce ne seront pas les dispositifs spécifiques qui seront d'abord mis à mal?
Aussi, voilà.
Bon, des craintes, mais aussi des messages d'espoir. Travaillons tous ensemble. C'était le message de Sylvie Carbia. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir été avec nous pour cette émission. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée à l'écoute d'Odo Radio.